chronique citoyenne avec Sébastien Saint-François.
Sébastien Saint-François, bonjour.
Salut Charles.
Bon, comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien. Bon, il fait beau, mais il fait pas chaud. Hein?
Non, il fait pas chaud. T'as pas été nommé par M. Trump, t'as pas été appelé?
Ben non.
Et misère. Quelque chose, hein?
Je suis déçu.
On va repasser le message. Tu pourrais t'occuper de quelle affaire, toi? De quoi tu pourrais t'occuper?
Ah, mon Dieu, je suis pas sûr que je pourrais m'occuper de grand-chose pour lui, parce que je ne fais pas dans la mentalité MAGA, moi.
Aïe, mais quelle affaire?
Tu commences avec ça?
Ben, on peut y revenir si tu veux, là. Ben, on termine avec ça. Tiens, parlons de nous un peu. On parle beaucoup d'eux. Parlons de nous parfois, hein, c'est bien.
Ben oui.
Le PLQ qui tient son congrès sur fond de loi 96, tiens.
Ben oui, c'était la fin de semaine passée. Écoute, j'ai vu des bribes de ça à la télé, dans les bulletins de nouvelles. C'est ça, je trouve que, écoute, pour un parti qui doit absolument reconnecter avec l'électorat francophone, parce qu'on sait que le PLQ est dans la cave, là, en ce qui concerne les régions, puis le vote francophone, ils ont passé beaucoup de temps à parler de l'anglais, de la place de l'anglais, les cégeps en anglais, la loi 96, que Denis Coderre, lui, il scraperait ça carrément, là, ce qu'il a dit. Moi, je vais scraper ça. Je trouve qu'ils ont passé beaucoup de temps à parler de langue et de minorité anglophone et tout ça. Alors, je sais pas où ça s'en va. Bon, c'était à prévoir là, que monsieur le grand favori. D'ailleurs, j'ai vu un sondage, je pense que c'est hier, j'ai vu ça passer au téléjournal, que si, là, c'est sûr qu'on fabule, puis c'est très hypothétique, mais on disait que si monsieur Rodriguez se ramassait à la tête du parti, le parti monterait soudainement à 26% dans l'électorat, versus en ce moment, je crois qu'ils sont à 17%. Et là, c'est le PQ qui, selon le dernier léger, là, qui sort grand gagnant. La CAQ, on a vu ça, est à 21. C'est quelque chose. Fait que, écoute, non, c'était à prévoir que là, on commence à attaquer M. Rodriguez, d'ailleurs, sur son bilan au fédéral, puis M. Rodriguez a essayé de patauger, puis de sortir de là, puis regarder, moi, je suis ma propre personne. Ouais, mais c'est parce que t'as quand même plusieurs années associées aux défenses de
M. Trudeau. T'es pas là parce que t'es ta propre personne. T'es là parce que t'as un passé.
T'es là parce que tu dis que t'as de l'expérience en politique. Ben, ton expérience en politique, c'est de faire partie d'un gouvernement très dépensier. Alors, ça va être intéressant de voir tout ça aller. Puis là, M. Coderre, c'est M. Coderre. Fait que lui, il s'exprime de sa façon. M. Milliard, on voit que c'est un monsieur très posé, qui prend ses distances, qui veut éviter les batailles de chats de gouttière. Il est plus posé, lui. Fait que c'est intéressant à voir tout ça aller, mais je trouve qu'ils ont accordé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à la place de l'anglais au Québec, alors qu'ils ont tout un travail à faire au niveau de l'électorat francophone pour le ramener au bercail. Parce que si on regarde le dernier sondage qui est sorti, on dirait que le vote, les électeurs qui sont tannés de la CAQ s'en vont tous du côté du PQ, parce que le PQ est à 35%, je crois. Puis les libéraux stagnent, ça bouge pas. C'est sûr qu'ils n'ont pas encore leur chef officiellement nommé, leur prochain chef, mais quand même, je pense qu'il va falloir qu'ils revoient leur façon. Puis ce qui est un peu ironique aussi par rapport à un autre projet, c'était le troisième lien. Là, tous les candidats à la direction là, du parti sont pour le troisième lien. Toute la gang. Se sont tous prononcés pour. Fait que, alors que la députation est pas vraie, est plutôt contre le troisième lien. Fait que ça va être intéressant de voir ça évoluer aussi.
Oui, tout à fait. Donc, on va suivre ça. Puis, évidemment, on a un gouvernement qui dirige un petit peu par sondage aussi, avouons-le.
Ah oui, donc, M. Legault doit pas être content cette semaine.
Oui, tout à fait.
Legault doit être inquiet un petit peu là, cette semaine avec le sondage qui est sorti.
Ouais. Quelle répercussion du Lockhart maintenant sur l'avenir du port de Montréal? Sébastien.
Ben oui, écoute, on sait que ça... Bon, là, le gouvernement a ordonné l'arbitrage exécutoire, mais il y a quand même eu un nouveau lockout. C'est pas la première fois que les activités au port sont paralysées. C'est arrivé il y a 4 ans, 2021, je crois. Puis bon, on sait que les relations de travail sont difficiles. Bon, on sait qu'il y a tout l'aspect économique. Là, chaque journée d'arrêt du port de Montréal, c'est des millions de dollars, des dizaines de millions de dollars. Ouais. Mais j'écoutais la PDG de l'administration portuaire l'autre jour, et elle disait que depuis 2021, le port a perdu 24% de son activité. Ça commence à être inquiétant 24%. Parce que justement, Oui, le corps de son activité, parce que les transporteurs ont besoin de fiabilité. Ils peuvent pas vivre ça à répétition, des conflits puis des paralysies de même. Puis ils se disent, ben là, le port de Montréal, c'est quand ça commence à devenir un paquet de troubles. Puis
il y a d'autres ports, il y a d'autres options. Ça arrive ailleurs aussi, des grèves. Il y en a eu, il y en a d'autres aussi. Dans d'autres pays, là. Calmons-nous.
Oui, je ne dis pas que c'est limité à Montréal.
C'est une façon de mettre la pression, ça, là. L'impression.
Ben oui, puis non, parce que, tu sais, à long terme, des conflits de travail comme ça, ça peut inciter certains transporteurs à dire, ben là, on va essayer de se trouver d'autres options plus fiables. Je ne dis pas que ça va arriver, mais selon la PDG, elle disait qu'il y avait eu une baisse de 24% de l'activité. C'est quand même énorme, là. Puis bon, c'est sûr que tu regardes la situation, je sais pas, là, j'ai jamais été débardeur, là. Je suis convaincu que c'est un travail difficile. Mais tu sais, on parle de salaire, là, en ce moment, de 171 000, incluant les avantages sociaux et tout ça. Puis là, ça s'en irait à 200 000 avec l'offre qu'on, ou ce qu'on recherche, l'offre patronale, plutôt, on a voté contre. C'est quand même, tu sais, c'est bien payé. Bon, il y a toute la question des horaires, la qualité de vie, puis tout ça.
Pis ils font pas tous ce salaire-là non plus, là. Pour en connaître quelques-uns, c'est pas des jobs évidents pour tout le monde.
Non, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est quand même des jobs bien payés. Fait que, en tout cas, là, j'ai hâte de voir, parce que là, c'est la deuxième fois que le fédéral invoque l'arbitrage exécutoire, parce qu'on sait qu'on peut pas, le gouvernement ne peut plus adopter de loi spéciale forçant les travailleurs au retour, à cause que la Cour suprême s'est prononcée là-dessus. C'est un droit fondamental, donc on procède différemment. Je suis sûr que notre ami Jacques Letourneau n'aime pas ça. Il en a déjà parlé à plusieurs reprises.
Oui, tout à fait. Il en parle même hors micro. Il en parle beaucoup même.
Oui. Parce que ça vient chercher assez, c'est sûr.
Il est présent sur plusieurs tribunes ces temps-ci, d'ailleurs, dans différents réseaux pour en parler aussi.
Il est assez en demande, hein? Il est assez en demande. Fait que ça va être. En tout cas, ça règle pas le conflit à la base, hein? Ça force un retour, mais ça règle pas les relations de travail entre l'employeur et les travailleurs dans ce dossier.
Donc, dossier à suivre, évidemment, dans un fond, dans un contexte de relance de l'économie. On essaie de faire des choses. Parlons-en de l'économie. Mmh. Tiens, en Allemagne, l'économie, pardon, qui est chancelante.
Ben oui, écoute, je lisais un article l'autre jour. Bon, on sait que le chancelier Olaf Scholz, son gouvernement, toute fin pratique, n'existe plus. Donc, il va falloir reformer un gouvernement. Ça va pas très bien pour lui en Allemagne.
C'est presque un titre d'une histoire du Capitaine Bonhomme. C'est chancelant pour le chancelier.
Oui. C'est très chancelant. Mais là, l'Allemagne s'inquiète. Écoute, l'Allemagne, c'est quand même, ça a longtemps été le moteur économique de l'Europe. Hein. Pensons sous l'ancienne chancelière, ça allait très bien. Là, ça va moins bien. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, bon, il y a toute la question de l'approvisionnement énergétique qui fait mal à l'économie. Et là, maintenant, la prochaine menace qui plane sur l'Allemagne, ce sont les tarifs que Donald Trump voudrait imposer, parce que ça ferait mal à plusieurs industries en Allemagne, dont l'automobile. On sait que ça va pas très bien au niveau de l'automobile depuis un certain temps. Et on apprend aussi que, tu sais, nous, on est très dépendants des États-Unis quand même pour l'exportation. Tu sais, il y a beaucoup de marchandises à la frontière tous les jours. Mais dans le cas de l'Allemagne, c'est encore pire. Nous, on dit que c'est à peu près 33 % de notre PIB qui est de l'exportation. En Allemagne, c'est près de la moitié, près de 50 %. Et contrairement à nous, ils n'ont pas beaucoup de ressources naturelles. Donc, leur économie n'est pas bâtie sur des ressources naturelles.
C'est pas un vaste territoire comme nous, là.
C'est
plus difficile.
Fait qu'ils disent que ils prévoient, selon, tu sais, on sait pas là, ce qui va arriver avec Trump et ce qui va vraiment imposer tous les tarifs qui veulent être posés. Je lisais ou j'entendais hier qu'une de ses nominations qu'il a faites, c'est un type qui est très pro-libre-échange. Alors, ce qui va réussir à tempérer Trump, à dire, c'est pas dans notre intérêt de faire ça, mais dans un scénario où il y aurait des tarifs, puis on parle des tarifs de 20 % que Trump voudrait imposer, ça pourrait faire chuter les exportations de l'Allemagne de 15 %. Fait que c'est pas évident. Puis, tu sais, ça va pas bien non plus pour Volkswagen. On apprenait qu'ils ont décidé de fermer des usines sur le territoire allemand. Puis c'est la première fois que ça arrive en 87 ans d'histoire de la marque. On sait que Volkswagen est le premier actionnaire de Northvolt.
Aussi.
Donc, ça peut avoir des répercussions jusqu'au Québec, là.
Oui, sans doute.
C'est inquiétant. Je pense que là, tout le monde, là, depuis une semaine, là, ben, tout le monde, je parle des pays, là, ils commencent à se repositionner et essayer de se trouver des stratégies pour parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Puis M. Donald, il a de l'air à y aller.
Oui, assez, allons-y à fond, mon Donald. Tiens,
ben, écoute, M. Donald,
qui étonne et qui surprend.
Oui, on a vu la belle photo, le beau montage hier, M. Biden qui l'a reçu à la Maison-Blanche avec le beau foyer.
La carte de Noël,
foyer. Oui, oui, écoute, c'était merci, welcome, bonjour, bienvenue chez vous, de retour chez vous. Fait que ça a été fait avec. Faut donner ça à Biden, il respecte la tradition constitutionnelle du pays.
Il doit envoyer un message d'unification,
absolument,
quelque chose.
Absolument. Mais c'est quand même, ça ne devait pas être facile ni agréable pour lui de recevoir le Donald hier à la Maison-Blanche.
Puis il avait l'air sympathique, cependant, il jouait bien le jeu, Donald.
Ben oui, oh oui, ben oui, ben là, il s'est calmé, là. Ouais. Alors, faut dire que cette fois-ci, contrairement à la première fois, rappelle-toi la première fois, toutes les nominations, c'était un gros spectacle. Les gens arrivaient à la Trump Tower à New York, puis c'était à la télé, puis tout. Là, ça se fait discrètement. Mais il y a déjà des noms là qui font sourciller, y compris dans les rangs républicains. Il y en a, par contre, on voit que ça l'a... Sa chef de cabinet, ouais. Parce que c'est quand même historique. Hein, c'est la première fois qu'une femme est nommée chef de cabinet, puis c'est par Trump. On dit que c'est un misogyne, mais en tout cas, il a nommé une femme à son poste de chef de cabinet. C'est l'architecte de sa campagne. C'est une dame qui s'appelle Susie Wiles, que je ne connaissais pas. Elle a 67 ans, et c'est elle qui est la directrice de campagne de Trump, et on dit que c'est elle l'artisane de sa victoire de la semaine dernière. Donc, elle va avoir tout un travail, parce qu'on sait que dans son premier mandat, il y a eu 4 chefs de cabinet, M. Trump, de soit à peu près un.
Oui, c'est les portes tournantes, là. C'est les portes tournantes.
C'est le gardien du bureau ovale. C'est cette personne-là qui dit oui, vous pouvez entrer, non, vous pouvez entrer.
Mais ça tourne pas toujours.
Et elle va prendre sa job au sérieux.
Oui, tout à fait.
Non. Donc, c'est un conseiller stratégique, puis c'est vraiment un gardien du bureau ovale pour faire en sorte que ça ne vire pas en cirque. Alors, lui, je pense qu'elle prend son travail très au sérieux. Est-ce que ça va fonctionner? On va voir.
Rapidement, Sébastien. Matt Gaetz.
Oui, Gaetz. Gaetz, ça, c'est sorti hier pour ministre de la Justice. Ça ne passe pas du tout dans les rangs, mais y compris dans les rangs républicains. Écoute, on lui reproche toutes sortes de magouilles, de choses sexuelles, et puis
de comportements éthiques douteux. Aucune connaissance, d'ailleurs, en monde juridique. Alors, c'est pas un juriste.
Loin d'être fait. C'est loin d'être fait. Puis, il y a un autre nom qui ressort du lot, c'est Tom Homan. Tom Homan, c'était un dur de dur. C'était lui qui était chargé du contrôle des frontières et de l'immigration,
ce qu'on
appelle
nouveau,
ICE aux États-Unis. Il fera de nouveau. Il a déjà dit, il a affirmé hier sur les ondes que la frontière canado-américaine était une passoire pour les terroristes. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, à quel point il va y avoir resserrement de la frontière pour les Canadiens.
Séparer des enfants pour lui, ce n'est pas un problème. C'est dissuasif, même.
Oui, bien, c'est ça. C'est ce qu'on se rappelle de lui. Puis, bien sûr, il y a Elon Musk. ça va être à suivre parce que je ne suis pas sûr qu'il va aimer ça être au gouvernement. Puis enfin, Marco Rubio, qu'on pressent pour le secrétaire d'État. Écoute, c'est un gars qui est anti-avortement, il nie le changement climatique, il est contre le soutien à l'Ukraine, il est anti-Cuba alors qu'il est d'origine cubaine, il est très pro-Israël, et c'est lui qui deviendrait donc le porte-étendard de la diplomatie américaine à l'étranger.
Oui,
ça va être beau de voir si tout ça se met en place.
Ça ne sera pas ennuyant, mon petit doigt me dit qu'on va en reparler
C'est
tout
sûr
ça.
Que ça ne sera pas embuant. C'est clair que l'agenda est mis... Il reste à voir dans quelle mesure on va expulser des gens, on va réduire l'État, etc., etc.
Ouais. Sébastien Saint-François, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bye. Salut.